une rediffusion.
Littérature sans frontières. Une terre, un auteur.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Un peu plus de 60 ans après l'indépendance de 17 pays africains, force est de constater que l'histoire ne s'en est pas pour autant simplifiée ni clarifiée à partir de cette date clé, 1960. Ainsi, au Cameroun, qui par ailleurs n'était pas une colonie mais une tutelle des Nations Unies confiée à la France, le pays a connu en coulisses de nombreux conflits, combats, une guerre civile avançant le nombre de 120 000 morts. Une situation géopolitique complexe, secrète, au cœur du nouveau roman de notre invité aujourd'hui. Une fiction à la fois formidablement documentée sur les liens opaques entre certains dirigeants français et camerounais, ceux qu'on appellera plus tard de façon plus générale la France-Afrique, et un vrai polar qui raconte les coulisses de ces bras de fer, machinations, abus de pouvoir et assassinats, à commencer par celui de Félix Moumier, une des grandes figures pour l'indépendance camerounaise, décédé brutalement, sans doute empoisonné, en novembre 1960 en Suisse. Une scène qui ouvre donc ce roman intitulé « Fracas » avec un « K » paru dans la collection Série Noire chez Gallimard. Bonjour Thomas Cantaloub.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, grand reporter et romancier. On vous avait découvert avec « Requiem pour une République », votre premier livre qui nous plongeait dans l'actualité de la guerre d'Algérie. Et là, on vous retrouve aujourd'hui avec les mêmes personnages, d'ailleurs nous en reparlerons, au Cameroun, en 1962. Comment s'est décidée à la fois cette continuité historique, mais aussi le choix de parler du Cameroun ?
En fait, ça remonte à assez loin. C'est la découverte, enfin ma découverte de l'existence de cette guerre du Cameroun, que je n'ai bien évidemment jamais appris à l'école ni durant mes études, et que j'ai découvert au début des années 2000 grâce au livre Cameroun, avec un cas aussi paru à la découverte de Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Satissa. Et voilà, et je découvrais qu'il y avait une guerre, et pas un petit accrochage ou quoi que ce soit, une vraie guerre avec des exactions commises par l'armée française et quelque chose qui s'est prolongé sur une vingtaine d'années. Et je connaissais pas ça. Donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu, et voilà, je me suis dit, c'est quelque chose dont ça mérite de parler. Et quand j'ai entamé une carrière de romancier, j'ai commencé par quelque chose d'assez proche, enfin, proche géographiquement de nous, qui était la guerre d'Algérie, mais vu depuis la France. Donc Requiem pour une République entre 59 et 61. Et puis, j'aimais bien ces personnages, j'avais envie de continuer. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi ne pas les plonger dans quelque chose de très peu connu pour la majorité des Français, qui est cette guerre du Cameroun.
Donc une histoire complexe, comme je le disais, mais que vous nous rendez néanmoins avec beaucoup de fluidité, à travers aussi donc ces personnages qui, un peu comme le lecteur français moyen, découvrent la face cachée de cette France-Afrique. Nous y arriverons juste après. Des personnages donc dont on avait fait connaissance dans votre premier roman, à savoir Luc Blanchard, qui à l'époque était dans la police et désormais journaliste, Antoine, un ancien résistant corse versé dans la contrebande à Marseille, et Sirius, un électron libre. Trois hommes qui vont donc se retrouver, pour des raisons différentes, sur le sol camerounais. Pourquoi avez-vous gardé ces trois-là? Et plus exactement, qu'est-ce qu'ils vous permettent de raconter ici?
Je les ai gardés parce que je les aimais bien. Voilà, c'était.
Vous y étiez attaché.
Je m'étais attaché, et puis je me suis rendu compte que mes lecteurs les aimaient bien aussi. Et c'était peut-être aussi une certaine forme de facilité. Je n'avais pas réinventé des personnages. Mais fondamentalement, ce que je voulais raconter, c'est situé à la même époque. Donc je me suis dit, bah autant reprendre les mêmes personnages. Et leur trajectoire, comme vous le dites, ce sont, au-delà du fait que ce sont des archétypes de polar, c'est-à-dire un ancien flic devenu journaliste, un truand, et un espèce de mercenaire un peu, voilà, qui va où on lui propose des contrats, ils sont aussi, d'une certaine manière, même si c'est des personnages de fiction, de polar, représentatifs des Français de cette époque-là, qui ne voyagent très peu. Hein. C'est une époque, l'avion, c'est pas encore très courant, des choses comme ça. Donc, ils vont découvrir le Cameroun. Et ça me permettait d'avoir, finalement, un point de vue, le point de vue du candide, qui découvre l'Afrique déjà pour eux ils connaissent pas et qui découvrent quelque chose dont ils ont jamais entendu parler dans les médias de l'époque, qui est cette guerre extrêmement violente.
Trois points de vue en effet, la situation politique, la situation humaine avec notamment Antoine, puisque lui il va suivre son commis et ami qui est camerounais et il va se rendre compte de la situation sur place, et puis la situation économique avec Sirius, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de Français qui sont aussi au Cameroun pour piller le pays, on en reparlera. Donc fracas avec un cas, comme vous le disiez Thomas Cantaloupe, parce que ça fait référence à ce livre Cameroun, justement, qui racontait cette guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Mais en quoi l'histoire, selon vous, de l'indépendance du Cameroun est-elle différente ou peut-être emblématique des autres indépendances?
Il y a deux phases, en fait, dans cette histoire de la guerre au Cameroun. Il y a une première phase qui est la lutte pour l'indépendance. Voilà. Il y a des guérillas dans ce pays, d'autant que, comme vous l'avez souligné, c'est une tutelle, ce n'est pas une colonie. Alors, en pratique, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais juridiquement, ça a permis au mouvement d'opposition camerounais, notamment l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, d'aller plusieurs fois devant l'ONU réclamer l'application stricte de la tutelle et pas de la colonie. Donc il y a toute cette première phase qui dure finalement jusqu'en 1960, jusqu'à l'indépendance, et contrairement aux autres anciennes colonies françaises en Afrique, la guerre se poursuit. Parce que l'UPC, qui est pareil, un mouvement qu'on a un peu oublié, mais qui, dans les années 50, avait une aura intellectuelle et politique quasiment équivalente à celle de l'ANC en Afrique du Sud. Et eux continuent parce qu'ils disent c'est pas une vraie indépendance qu'on nous a accordée. Et donc ce mouvement va continuer, même après l'indépendance. Et c'est en cela qu'il est significatif. C'est-à-dire que dans la plupart des autres colonies devenues États indépendants, les mouvements d'opposition, de guérilla, finalement, s'arrêtent, pas au Cameroun. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, mais ça, je l'ai découvert un peu plus tard. En fait, je l'ai découvert en faisant mes propres recherches au Cameroun, qui est que, en 54, 56, la France perd l'Indochine. Voilà. Ils abandonnent l'Indochine, et l'Indochine était, en termes de ressources en matière première, extrêmement importante pour la France. Et ils se disent, par contre, on va pouvoir remplacer l'Indochine. Et en fait, le Cameroun est le meilleur candidat. Le pays est riche de ressources naturelles, hein, du bois bien entendu, mais aussi des minerais. Et déjà à l'époque, on commence à penser qu'il y a du pétrole et à examiner le pétrole. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'aborde ça, comme vous le dites, par le biais du personnage de Sirius Wagstrom. Le Cameroun est le seul des anciennes colonies françaises ou tutelles françaises dont le sous-sol a été parfaitement cartographié par la France. Et donc, il y avait un véritable enjeu économique avant l'indépendance à remplacer finalement l'Indochine par le Cameroun. Et puis ensuite, une fois que l'indépendance est acquise, finalement, quand même, beaucoup de gens à Paris se disent que ça serait bien dommage d'abandonner cette manne. Et d'où cette volonté et cette construction qu'on appellera bien des années plus tard, des décennies plus tard, la France-Afrique, de continuer à, par l'intermédiaire de conseillers, par l'intermédiaire des ambassades, par intermédiaire des formations militaires, finalement, de garder la main et de serrer la vis au Cameroun.
Et donc, on y arrive à cette France-Afrique, parce que derrière cette expression, c'est un homme, essentiellement, Jacques Foccart, que vous mettez en scène, d'ailleurs, Thomas Cantaloupe, dans votre roman, éminence grise, homme de l'ombre, officiellement industriel, et qui a été le maître des jeux d'influence entre le continent et la France. Laurent Corot du service Afrique de RFI nous rappelle qui était Jacques Foccart.
Jacques Foccart a été décrit par certains comme l'homme le plus puissant de la Ve République française pour le rôle central qu'il a joué dans les relations entre la France et l'Afrique, d'abord sous la présidence de Gaulle, puis dans une moindre mesure sous Pompidou et sous Chirac. C'est un ancien résistant, il est emmené par de Gaulle dans ses valises quand celui-ci arrive aux affaires en 1958, et le général de Gaulle va lui confier la mission essentielle de suivre les questions africaines, des dossiers sur lesquels, tous les soirs ou presque, Foccart verra le général pour lui faire part des dernières informations et pour parler de la politique à mener. On est alors en pleine décolonisation et Foccart va s'attacher à nouer une relation ambiguë avec le continent où l'Afrique ne sera plus tout à fait la France, mais pas encore l'étranger. La préservation de l'influence française en Afrique sera, à cette époque, une manière de continuer à peser sur la scène internationale.
Un portrait de notre confrère Laurent Corot du service Afrique. Voilà, Jacques Foccart, un homme qui est décédé aujourd'hui, qui est donc dans votre roman, mais on y croise également François Mitterrand, Gaston Defferre. Vous en faites des vrais personnages. Alors c'est vrai, Thomas Cantaloupe, qu'ils ont participé à cette histoire, mais pourquoi les mettre en scène, comme je le disais, dans quelle perspective? Est-ce que c'est aussi pour montrer une image moins lisse, moins policée des politiciens qu'ils ont été?
Voilà, c'est un peu, comme vous dites, au fur et à mesure des années, la mémoire s'estompe et effectivement, on a tendance à les lisser, un peu à oublier le détail de ce qu'ils ont fait. Donc moi, ça m'intéresse de les mettre en scène, déjà pour rappeler que les frontières entre droite et gauche étaient à cette époque-là pas forcément aussi tranchées qu'elles ont pu l'être après. Mitterrand a été, avant d'être un opposant à De Gaulle, a été quelqu'un qui a participé au gouvernement, qui a eu... sur la question algérienne, qui a été ministre de la Justice, qui a été contre l'indépendance algérienne avant d'être pour. Et celui qu'on voit davantage dans ce roman, c'est Gaston Defferre, qui a été ministre des Outre-mer, qui a... Il y a une loi cadre dans les années 50 qui portait son nom. Et voilà, et pour quelqu'un de mon âge, j'ai 50 ans, moi, pour moi, Defferre, il arrive en tant que ministre de l'Intérieur en 1981, mais en fait, c'est un homme qui a un véritable passé politique profond. Par ailleurs, Defferre était maire de Marseille, et ça, c'est assez bien su, il avait quand même beaucoup de connivence et d'acquaintance avec le milieu, c'est-à-dire pour ne pas dire la mafia. Donc, sachant que j'ai des personnages, moi, issus de ma mafia dans mes romans, voilà, ça m'intéressait de faire en scène là-dessus. Quant à Focard, bah, Focard, c'est déjà presque un personnage romanesque, comme le rappelait très bien le portrait dressé par le journaliste de RFI. Voilà, c'est quelqu'un qui vient de la Seconde Guerre mondiale, qui a été résistant, qui a accompagné De Gaulle, et dont on se souvient beaucoup comme le monsieur Afrique. Mais en fait, il a aussi fait d'autres choses. C'est-à-dire que c'est, par exemple, le créateur du SAC, du Service d'Action Civique, c'est-à-dire la milice gaulliste, en quelque sorte. Il a toujours été très politique. C'était effectivement l'homme qui voyait De Gaulle tous les jours, le seul. Tous les jours, il allait voir De Gaulle, quoi qu'il se passe. Il lui parlait d'Afrique, mais pas que. Et il fait partie de ceux qui ont porté De Gaulle au pouvoir en 58. Et c'était un des grands organisateurs d'une tournée du général De Gaulle en Afrique aussi. C'était encore les colonies à l'époque. Il a en quelque sorte rallié une partie de l'Afrique qui était coloniale à De Gaulle. Et après, il a continué à s'occuper de ce domaine. C'est un personnage romanesque, Focard, parce qu'à la fois, il est très connu. On connaît ses fonctions, on sait ce qu'il occupait, on sait à quel point il était présent dans les conversations avec les chefs d'État africains, avec les hommes politiques français. Et en même temps, il y a plein de choses qui sont inconnues. Il y a beaucoup d'archives qui ont été brûlées par lui-même, d'ailleurs, quand il a quitté ses responsabilités. Et il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas. Par exemple, moi, j'ai longtemps pensé que Focard était un haut fonctionnaire ou un avocat ou un homme politique. Non, en fait, c'était un chef d'entreprise. Il a toujours eu ses propres entreprises qui continuait à commercer, notamment il y avait des entreprises dans les Antilles françaises, d'exportation de bananes, de choses comme ça, et on n'a aucune trace de ça, on sait pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça serait impensable que quelqu'un qui occupe des telles fonctions puisse en bénéficier d'une quelconque manière économique, mais à l'époque, ça ne dérangeait personne. Donc il y a cette part d'ombre aussi autour de Focard, et puis le fait qu'il a très peu parlé, c'était pas quelqu'un qui allait tous les quatre matins dans les médias, enfin même les médias étaient plus restreints à l'époque, mais même après... Il a laissé quelques mémoires, mais que ce qu'il veut dans ses mémoires, voilà. Il y a une part de mystère chez ce personnage qui, bon, pour un romancier, en fait quelque chose d'assez attractif et de le mettre en scène, effectivement. Bon, là, c'est la part de créativité, mais en me basant sur des faits réels et des comportements réels de sa part.
Sur RFI, dans Littérature sans frontières, nous poursuivons notre conversation littéraire avec Thomas Cantaloube, auteur de Fracas aux éditions Gallimard, qui se déroule en 1962, de plein pied dans l'histoire camerounaise et sur la terre même du pays, entre Douala et Yaoundé, jusque dans les villages les plus reculés et à la frontière gabonaise. Vous êtes allé sur place aussi, j'imagine, Thomas Cantaloube, spécifiquement pour documenter ce roman, ou c'est un pays que vous connaissiez par avant ?
Non, je ne le connaissais pas, si ce n'est par où dire. Il se trouve que mon oncle a été enseignant au Cameroun dans les années 70, donc voilà, j'en ai entendu parler un peu, mais pas plus que ça en fait. Mais j'avais justement très envie de découvrir ce pays, dont on dit souvent, c'est à la fois un cliché, mais comme tous les clichés, il y a un fond de vrai, que c'est l'Afrique en miniature. Et donc voilà, j'y ai été en cours d'écriture du livre, en fait, pour à la fois pour me documenter, pour voir les choses, pour les raconter. Et puis aussi, j'ai eu comme un ensemble d'entretiens avec quelques anciens de l'UPC, et puis des gens aujourd'hui qui sont toujours dans l'opposition, qui portent toujours ce combat de l'UPC, parce que le fait est que, voilà, ce que je raconte aussi, c'est une décolonisation qui n'a pas vraiment abouti. Et donc, c'est intéressant de te voir aujourd'hui aussi quelle dynamique se joue.
Et en même temps, comment raconter le Cameroun des années 1960, puisque en 2020, évidemment, ça a beaucoup changé. Est-ce que vous vous êtes nourri aussi de lectures d'écrivains camerounais comme Mango Betty, à qui d'ailleurs vous rendez hommage à la fin du livre?
Voilà, j'ai lu Mango Betty, Achille Mbembe, qui est plus jeune. Il y a très peu de documentation pour ce livre. Je sais pas, quand on a réfléchi avec le graphiste de Gallimard sur la couverture.
Qui représente quoi d'ailleurs?
C'est Oubniobé avec Félix Moumier. C'est une photo, c'est une des seules qu'on ait, une des rares. Mais on a cherché effectivement des photos de la guerre d'Afrique et on n'a quasiment rien trouvé en fait dans les archives. Parce que c'était un événement qui était extrêmement peu documenté. Donc j'ai eu très peu de sources primaires. Après, j'ai pu bénéficier de gens qui m'ont raconté. Et aussi, pareil, un ami de la famille dont le père était gendarme au Cameroun au début des années 60. Donc voilà, ne serait-ce que pour pas faire de bêtises dans le type de ce que je racontais, les types de véhicules qu'il pouvait y avoir à l'époque, l'habitat, des choses comme ça. Voilà, j'ai fait ce travail de documentation en m'adressant à des gens qui avaient vécu cette période ou qui l'avaient connu assez proche.
Alors justement, c'est aussi l'histoire d'un Cameroun méconnu, voire tabou, que vous restituez ici, Thomas Cantaloube, à l'image de l'histoire d'Anissé, un homme qui a été traumatisé, pris en étau dans les conflits internes, prisonnier de longues années dans un camp dans le plus grand secret. Cette histoire, il la raconte à mi-mot, à Luc Blanchard, votre journaliste. Est-ce que c'est une histoire vraie qui vous a été rapportée ?
C'est un mélange de plusieurs histoires, oui. C'est un mélange d'une histoire comme a raconté un ancien de l'UPC qui était le secrétaire d'Ernest Ouandié. Ernest Ouandié, qui était le leader de l'UPC avant d'être exécuté au début des années 70, lui était son secrétaire particulier. Il a été emprisonné à cette époque-là, et puis un beau jour, dans les années 80, il a été libéré, il n'a jamais su pourquoi, après avoir passé des années en prison, dont les premières années où il était torturé.
Et voilà. Et emprisonné par qui et pourquoi? C'est ça qui...
Emprisonné parce que l'UPC était un mouvement de guérilla. C'est-à-dire que c'était un mouvement politique, mais c'était aussi un mouvement de guérilla. Donc voilà, c'était une guérilla. Ils ont, qui a été déclarée illégale, par le gouvernement camerounais, pour le coup, hein. Les Français avaient, assez peu à voir là-dedans, si ce n'est qu'ils formaient l'armée camerounaise. Mais voilà, donc, emprisonné, puis libéré du jour au lendemain, sans trop savoir pourquoi, avec, pas forcément l'autorisation de parler, mais pas une véritable interdiction non plus. Voilà. L'histoire, en fait, ce qui est assez curieux au Cameroun, c'est que l'UPC est un grand mouvement politique, idéologique, intellectuel, avec beaucoup d'écrits. Et il y a, aujourd'hui, c'est encore un tabou de parler de l'UPC au Cameroun, en quelque sorte. Voilà. Contrairement à plein d'autres anciens mouvements qui ont été récupérés, qui ont été mythifiés, des fois, l'UPC reste quelque chose dont on parle très peu, hein. Il suffit d'aller, d'ailleurs, visuellement, c'est intéressant puisque l'ancien palais du gouverneur français devient le premier palais du chef d'État et aujourd'hui c'est un musée à Yaoundé. Et dans ce musée, effectivement, il y a une pièce où on parle un peu de l'UPC, mais on sait pas trop comment y toucher, on sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, c'est à la fois, ça fait partie de notre histoire, c'était bien parce qu'ils sont battus pour l'indépendance, mais bon, après, ils ont quand même continué la guérilla, on n'en voulait pas trop, et puis ils étaient un peu gauchistes, donc voilà, c'est pas trop la tonalité. Voilà. Le Cameroun aujourd'hui ne sait toujours pas bien comment appréhender l'UPC. Donc pour revenir à votre question, me suis inspiré un peu de ce personnage-là, et puis également d'autres récits que l'on m'a fait. Donc c'est un assemblage. Ce n'est pas Anicé, n'est pas quelqu'un de particulier. C'est un composite finalement.
Néanmoins, il est question de camps de concentration, de villages rasés au napalm. Tout ça a eu lieu.
Tout ça a eu lieu. Mais la France a toujours fait en sorte qu'on ne parle pas de cette guerre au Cameroun. Et c'est ça le plus crucial. Quand la France était elle-même combattait les indépendantistes, on n'en parlait pas. Et ensuite, quand elle a assisté le gouvernement, le premier gouvernement camerounais du président Ahidjo, on n'en parlait pas non plus. Au Cameroun, on ne trouve rien. Il y a eu une poignée de reportages qui ont été. Un beau jour, on trouve dans la presse française un journaliste du Monde qui dit il y a eu des dizaines de milliers de morts, mais il l'a jamais répété ailleurs, il l'a jamais écrit dans son journal, hein, parce que ça, il l'avait prononcé dans une conférence à la Sorbonne, je crois. Et donc, c'est quelque chose de pas connu que la France n'a jamais voulu raconter. Et évidemment que l'armée française n'a pas voulu raconter ça. Bombarder des villages au napalm, rassembler des habitants, les mettre dans des camps de concentration, et éliminer les civils. Bon, c'est la France qui a éliminé le premier leader du PC, Ruben Omnibé, il a été tué en brousse. Moumié a été assassiné à Genève par les services secrets français. Ça a été avoué et admis, puisque, en l'occurrence, c'était une bavure. Ils ont failli rater leur coup. Et le dernier secrétaire, Ernest Ouandier, a été appréhendé par les troupes camerounaises. Mais voilà, donc, c'est quelque chose dont, effectivement, on peut légitimement comprendre que l'armée française, le gouvernement français, n'ait pas voulu le clamer sur tous les toits, parce que ce qui s'est produit au Cameroun, c'est du même ordre que ce qui, pour le coup, est très bien documenté, qui est l'armée américaine au Vietnam. C'est le napalm, ce sont les hélicoptères, ce sont les rassemblements de population civile. Et voilà, et c'est quelque chose qui est passé sous silence.
Et donc, c'est la fiction, aujourd'hui, 60 ans après, qui raconte ce qui s'est passé et qui n'a pas été documenté à l'époque.
C'est un moyen de le raconter. Ouais. Il y a plein d'autres moyens. Les historiens sont les premiers à devoir s'emparer de ça. Moi, j'ai voulu le raconter par la fiction parce que je trouve que la fiction, et en particulier le genre spécifique du polar, permet beaucoup de raconter des histoires, qu'elles soient politiques, où il y a aussi des thrillers économiques, par exemple, qui racontent les dessous de l'industrie, des choses comme ça. Je trouve que c'est un moyen, tout en distrayant le lecteur, enfin, en faisant en sorte qu'il ait envie de tourner les pages, d'aller au bout d'une histoire, où il y a des rebondissements, il y a du suspense, il y a des crimes, d'essayer d'apprendre quelque chose. Moi, c'est la littérature que j'aime, et c'est le polar que j'aime. J'aime bien les polars qui me font découvrir soit un morceau d'histoire, soit un pays, soit une région, enfin. Il y a un certain nombre d'écrivains de polar américains comme Tony Lerman qui nous font découvrir les réserves indiennes, ou James Lee Burke dans le sud des États-Unis qui fait découvrir ce pays cajun. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est aussi ce que j'ai voulu écrire en me disant, bah voilà, c'est une occasion de raconter ça. Et donc, pour moi, parce que je ne suis pas historien et je n'ai certainement pas prétention de l'être, j'ai été journaliste, donc je peux documenter le présent en faisant des liens avec le passé. Mais voilà, la fiction m'est apparue comme ce moyen de réveiller, de titiller les gens en disant « Mais allez jeter un coup d'œil du côté de ce qui s'est passé il y a 60 ans. » Et moi, j'essaie de vous y faire entrer par une histoire de criminels, de flics, de journalistes. Voilà.
Et de fait, c'est un excellent roman noir, en effet, Thomas Cantalou, parce que même si le fond est dramatique, vous avez une énergie dans l'écriture et des personnages qui sont même drôles, d'ailleurs, si vous me permettez, parce que des fois, on a l'impression, quand on suit Luc, Antoine ou Sirius, d'assister à une scène des pieds nickelés, presque. Ils savent pas vraiment où ils vont, et ils essayent de s'en sortir à moindre frais. Il y a une scène, un tour de force littéraire, où ils sont dans un hélicoptère, ils vont survoler la forêt camerounaise, il va y avoir un crash, enfin, vraiment. Il y a des rebondissements dans tous les sens du terme, mais ce côté comédie, est-ce que c'est un côté qui vous est propre ou c'est aussi une référence à cette époque qui aimait bien aussi le roman noir, mais qui faisait sourire, un peu satirique?
Oui, tout à fait. Il y a un peu ce côté-là. C'est-à-dire que le premier roman, Requiem pour une République, se passe principalement à Paris, un peu à Marseille, mais dans des arrière-salles de café un peu louches, avec des types qui avaient des chapeaux mous sur la tête, qui préparaient des coupes en dames. C'était une référence très cinématographique au film de Jean-Pierre Melville, de Lautner, ces choses-là. Et là, tout à coup, je sortais mes personnages de ça, et puis j'allais les mettre dans un pays avec de la latérite, un grand ciel bleu, de la végétation, et on raconte pas les mêmes histoires comme ça. Donc, qu'est-ce que je pouvais raconter en profitant du Cameroun, voilà, de la géographie, du paysage camerounais? J'allais pas les mettre à des terrasses de café au Cameroun à discuter. Donc, voilà, du coup, c'est un peu de roman d'aventure qui s'infiltre là-dedans. Et là aussi, les références sont cinématographiques. Enfin, voilà, il y a les films de Philippe de Broca, des choses comme Le Magnifique, où, tout à coup, le personnage, voilà, il sort de son milieu urbain, qui est effectivement qui est quand même le milieu de prédilection du genre du cinéma et du film et du roman policier. Et là, on se retrouve avec des grands espaces. Donc, qu'est-ce qu'on raconte avec des grands espaces, avec des moyens de locomotion qui sont ce qu'ils sont à l'époque, etc. Donc voilà, il y a le truc de l'hélicoptère. Et puis mes personnages, c'est pas des pieds nickelés, mais enfin bon, ils découvrent l'Afrique. Voilà, donc forcément, ils sont naïfs, ils font des bévues. Et leur position est finalement aussi complètement inversée par rapport au premier roman. Dans Requiem pour une République, c'était eux qui traquaient quelqu'un. Tous les trois traquaient quelqu'un. Et là, j'ai inversé, c'est eux qui sont en quelque sorte traqués. C'est-à-dire que voilà, ils commencent à faire un peu trop de bruit, à soulever un peu trop de couvercles qu'ils ne devraient pas soulever. Et donc, ils se retrouvent poursuivis. Donc voilà, la course-poursuite est un autre genre en soi. Et puis, je crois qu'il y a eu peut-être un besoin aussi, à un moment de prendre un peu de recul, d'essayer d'instiller un peu de comédie là-dedans pour pas non plus plomber complètement le lecteur, voilà, parce que pour moi c'est du roman populaire, c'est du roman policier, et il est avant tout important pour moi que le lecteur aille jusqu'au bout.
Avec de vrais dialogues percutants, le sens de la réplique, en particulier par Lucille. Alors c'est une des rares, pour pas dire la seule femme de votre roman. Elle est en partie guadeloupéenne, elle va être obligée de quitter le Cameroun et de suivre Luc Blanchard. Et visiblement, dernière scène, on sent qu'elle a envie d'aller en Guadeloupe. Est-ce que ce sera le lieu de votre prochain roman, Thomas Cantaloube ?
Exactement, parce qu'il y en a un troisième qui est prévu et il se passera effectivement en partie en Guadeloupe. Voilà, toujours dans la prolongation de cette période, de ces questions de colonisation, décolonisation. Voilà, il se passera effectivement en Guadeloupe, et vous l'avez souligné, Lucille est un personnage qui apparaît, qui prend de l'ampleur dans ce roman, aussi parce que j'avais un monde essentiellement masculin, et j'avais envie de m'ouvrir un peu, et j'avais une certaine pression familiale, vu que j'ai une fille adolescente qui me reproche de ne pas mettre assez de personnages féminins dans mes romans.
Et elle a bien raison, et on est ravis de l'existence de Lucille, et on espère qu'elle aura d'autres amis dans le prochain livre. En tout cas, en attendant de lire le troisième volume de ce qui va devenir une trilogie, je rappelle à nos auditeurs le titre de ce deuxième roman, Fracas, aux éditions Gallimard, et à signaler également que Requiem pour une République paraît en poche dans la collection Folio Policier. Merci beaucoup Thomas Cantaloube.
C'est moi qui vous remercie, merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.